notre propre corps et notre corps social, il part de là. Il dit, oui, mais attention, il y a des limites dans ce corps. Supprimez ces limites et vous allez découvrir le corps du Christ qui a pris des limites pour nous montrer qu'il est sans limite. Donc il va falloir passer d'une réalité sensible dont nous faisons l'expérience à travers un travail de décantation, de purification. Il faudra lâcher beaucoup de choses pour découvrir ce qui était présent dans l'analogie. Nous avons l'expérience d'un père, de la paternité, nous avons l'expérience. Soit parce que nous sommes filles ou fils, soit parce que nous sommes père ou mère. Oui, l'expérience. Mais cette expérience est très limitée. Faisons abstraction de cette limite. Voilà. Quand nous regardons que Dieu est Père, il l'est comme. Et donc autrement. Comme autrement. Dit en langage scripturaire, le Père de qui toute paternité descend. Nous sommes Pères parce que Dieu est Père. Mais nous commençons par dire, Dieu est Père comme nous sommes Pères. Et il faut retourner complètement la paix pour dire, mais non, c'est le contraire. Et ça, c'est tout le travail que fait constamment l'Écriture. Elle nous fait partir de la réalité sensible, et elle nous dit, alors maintenant, allez, faites accumuler. Mettez-vous sur vos mains. Et vous allez découvrir que, au lieu de voir que la réalité vient d'en bas, elle vient d'en haut. Et voilà, c'est ça l'agriculture. C'est apprendre à faire ce cumulé, apprendre à faire ce retournement. Et vous voyez, même pour quelqu'un comme Paul, il va faire ce retournement. Dit en termes scripturaires, il tombe par terre. C'est-à-dire, il perd toutes ses prérogatives, tout ce qu'il avait, il le perd. Et il faut passer par ce moment de mort, il reste 3 jours sans voir, sans manger. Donc il reste 3 jours, en quelque sorte, au tombeau. Il vit symboliquement le tombeau du Christ. Il dira dans l'Épître aux Romains, enseveli dans sa mort pour ressusciter dans sa résurrection. Et nous devons employer constamment des termes symboliques. Pourquoi employons-nous des termes symboliques? Parce que nous sommes limités et nous devons dire l'au-delà de notre réalité concrète, repérable immédiatement. Le langage de l'amour est toujours symbolique. Pourtant, il est réel. L'amour se passe dans l'histoire. Et pourtant, il se dit, il s'exprime constamment de manière symbolique. Et c'est à ce phénomène-là que nous avons affaire quand nous lisons l'Écriture.
Et médiévaux avaient l'expression quasi pour essayer.
Oui, comme, pour ainsi dire. C'est vrai que de temps en temps j'utilise aussi cette expression pour ainsi dire. Qui ne dit rien, pour dire ainsi, ça veut dire pour dire autrement. Le terme qui signifie cela dans le langage du médiévaux, c'est allégorie, allegoreo, c'est-à-dire parler un autre langage. La même chose dite en un autre langage, en un langage de type symbolique. Et c'est vrai que c'est un langage auquel, aujourd'hui, il faut réfléchir sur le langage aujourd'hui, auquel, dans un certain sens, nous sommes habitués grâce à l'image. L'image nous habitue au symbole. Constamment. On vous résume la vie d'un homme en 3 quarts d'heure à la télévision. On peut vous résumer, mais on fait un choix. Lui qui a fait des choix. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous fait voir la vie d'un homme, non? On vous fait voir la pensée ou l'imaginaire de quelqu'un qui a pensé, qui a imaginé la vie d'un homme. On vous donne l'illusion de voir la vie d'un homme. On dit sont des documents authentiques. Bien sûr, ce sont des documents authentiques. C'est clair. Mais ce sont des documents authentiques qui ont été composés d'une certaine manière, étant donné celui qui a fait le film et celui à qui le film est destiné. Langage subjectif? Non. Langage objectif? Oui. Langage subjectif et objectif? Oui. Il y a les deux. De langage purement objectif, vous n'en avez pas. Le langage purement objectif est tout à fait pauvre. Vous le trouvez dans les livres de science. On a observé que tel corps, quand il est mis en présence de tel autre, réagit de telle manière. On a fait l'expérience 200 fois et on vous tire une loi générale. Ça va toujours comme ça. Mais on vous dit très peu de choses, en fait. On peut tirer des conclusions. On peut extrapoler. Mais ce qu'on a découvert, c'est quelque chose d'extrêmement petit. C'est important parce que ça fait avancer la science. C'est pour ça que la recherche demande tellement de capitaux, parce que on avance vraiment que petit à petit et grâce à de multiples observations. Et l'histoire, vous ne pouvez pas la répéter à 200 exemplaires. C'est toujours différent, l'histoire. Et donc l'histoire se donne toujours dans une compréhension d'elle-même. Elle ne se donne jamais de façon purement objective. Elle se donne toujours à travers les interprétations. Et ici, nous sommes à travers une interprétation, l'interprétation que l'Église se donne d'elle-même. Et bien, elle vous dit, attention, cette interprétation ne dépend pas de moi, elle m'est donnée. C'est l'Esprit Saint qui me la donne dans la personne de Jésus, Fils de Dieu. La preuve, je n'en ai pas, dit l'Église. Le seul signe que j'en ai, c'est mon témoignage. Pas de preuve. Mais mon témoignage vous donne des signes que cette personne a existé, que le premier chemin de l'Église s'est fait à Jérusalem de telle ou telle manière. Je vous donne quand même des repères intéressants. Je ne vous donne pas tout. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous mettre à la place de Jean d'il y a 2000 ans. C'est ce que nous voudrions, hein? Quand nous lisons l'Évangile, nous disons, voilà, nous sommes face à Jésus. Non. Nous sommes face à l'Église de Jésus qui nous dit Jésus. Quand nous pouvons découvrir Jésus 2000 ans après. C'est une illusion de croire que nous sommes face à Jésus. Et si nous avions été du temps des apôtres, mais ils n'étaient pas en lui, ils étaient face à Jésus matériellement, mais avant de découvrir devant qui ils étaient, Jésus était déjà mort et ressuscité. Ils n'ont découvert qui était Jésus qu'après. Et nous faisons la même expérience que dans la donne. Oui.
Est-ce que le témoin, c'est une bonne question, est-ce que le témoin, par exemple, aurait été suffisant pour convaincre une femme, ou bien est-ce que lui parlait de la vision de Damas, ou bien est-ce que la vision de Damas n'est pas l'expérience de la foi du témoin?
Je ne peux absolument pas répondre à la question, mais je vois ce qu'il y a en dessous. C'est bien une question de nous, Vernet. Est-ce que c'est suffisant ou bien la question est ceci. Est-ce que voir mourir Étienne de la manière dont c'est raconté dans les actes, par Paul, est-ce que c'était suffisant pour le, entre guillemets, convertir, ou bien est-ce qu'il fallait une intervention de Jésus? Saint-Luc, en tout cas, nous dit les deux. Vous voyez? Alors, vous dire, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est pas suffisant? Ça, je ne peux pas répondre à la question.
La vraie question, est-ce que les deux sont dans le même acte, dans le même événement ou pas? Ça, il faut toujours.
Qu'est-ce que c'est que l'événement? Ce que Luc nous dit, c'est que l'événement commence lorsqu'on voit le témoin et il s'accomplit, disons, lorsqu'on voit que ce témoin, c'était vraiment Jésus que l'on rencontre soi-même. Donc, au fond, Luc nous décrit le chemin, l'itinéraire d'une expérience. Il nous dit les deux. Or, je crois qu'en général, nous entendons un témoin et nous faisons peut-être des années après l'expérience que vraisemblablement le témoin avait faite, l'expérience de Jésus lui-même. Oui. Oui, c'est bien ça. Il a vu Jésus ressuscité. Jésus ressuscité, comme nous. Comme nous, nous avons rencontré Jésus ressuscité.
Mais on dit sur le chemin de Damas que ceux qui l'accompagnaient n'ont rien vu.
Ben oui. On dit qu'ils n'ont pas vu et qu'ils ont entendu, ou bien qu'ils ont entendu et n'ont pas vu. C'est-à-dire que ils n'ont pas compris le sens total de l'événement, pour la bonne raison que l'événement est pour quelqu'un.
Donc dans ses compagnons, c'est nous que Luc met là pour dire tu ne dois pas t'imaginer que tu aurais pu filmer.
C'est ça. Mais en même temps, c'est l'image de ce qui nous advient. Le même retournement que celui de Paul, analogiquement bien sûr, parce que nous ne sommes pas Paul, mais nous pouvons avoir la même expérience que lui. Une expérience du même ordre, en tout cas.
Un ami était nécessaire.
Pardon ?
Un ami était nécessaire.
Je répondais comme ça, Thomas. De la nécessité philosophique, non. Il fallait. Philosophique. Mais de la nécessité d'histoire, oui. Ça veut dire que, en fait, il était nécessaire parce qu'il était. Ça, c'est la nécessité dont parle Luc.
C'est-à-dire qu'après l'événement, on y réfléchit, on y voit une convenance, qui est aussi intermédiaire.
Il fallait. Et Luc traduit par
les deux. Jésus meurt en croix, et en toute une lettre pastorale du cardinal là, il réfléchit après coup, le fait est premier, et on trouve des motifs de convenance. Ce qui est plus souple que dire c'est tout à fait fortuit, ou arbitré, ou bien c'est fixé sur quelque chose.
C'est ça.
C'est entre les deux.
C'est ce qu'on appelle la nécessité historique. La nécessité qui ressort de l'histoire.
On portait batte.
Mais on portait peut avoir deux sens. On peut dire on portait sur le plan philosophique. Une nécessité logique. Poser la théorie qui vient à la conclusion. Et on peut dire on portait dans un dessin qui passe à travers l'histoire, il faut. Mais c'est sur le plan de scientifique, c'est une convenance, comme le dit Pierre, une convenance. Ce n'est pas une nécessité logique. Il n'y a pas de nécessité logique dans notre foi est d'ordre historique. Une nécessité logique de courant Dieu, dans l'être. Alors voyez, à partir de là, il faut quand même y venir, Luc va montrer, d'une part, dans son évangile, comment Jésus se révèle. Donc il va ordonner les passages de son évangile, chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11. Il va les ordonner de telle manière que nous puissions découvrir progressivement. Et là, l'ordonnance, si vous la comparez à Marc et si vous la comparez à Luc, ou à Jean, est très différente. Et c'est justement en comparant ces schémas de Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean, que vous voyez l'idée qu'avait Luc en ordonnant ces textes autrement. C'est pas du tout fortuit, ce qu'on essaie de vous dire. C'est basé sur une réflexion en mettant les textes, alors qu'il suit à peu près Marc jusque-là, il le suit d'une façon presque servile, tout en ajoutant de temps en temps quelques détails, à partir d'ici, eh bien, il va faire cavalier seul. Vous ne trouvez plus chez Marc ce qu'il va nous dire dans cette grande séquence qu'on appelle généralement le grand voyage, parce qu'on parle de Jésus qui va à Jérusalem. Pourtant, on fait du surplace. Pendant tous ces chapitres, on n'avance pas. et toutes les notations qui chez Marc étaient des notations de temps ou d'espace sont chez Luc tout à fait généralisées un jour quelque part ou après cela. Au lieu de vous donner des repères chronologiques ou topographiques, Luc nous parle de façon tout à fait générale. Ça veut quand même dire quelque chose, hein? Alors qu'il suit Marc, tout d'un coup, il ne suit plus. Et donc cette séquence, un peu comme une cadence dans un concerto, tout d'un coup, l'orchestre s'arrête et l'instrument concertiste, hein, que ce soit le violon, le piano, joue tout seul. Alors, il va vous donner vraiment la perception que l'auteur avait pour mettre en évidence la musique de ce violon. Hein. Les possibilités de ce violon, de ce piano, etc. Ou la virtuosité de celui qui joue. Et donc, vous avez là vraiment quelque chose de tout à fait particulier à lui. Et alors, si vous regardez les choses de près, vous voyez qu'il vous présente vraiment Jésus comme fils du Père. Puis il va nous présenter le Père qui envoie, donc ça c'est au chapitre 9, où Jésus est mis en évidence. Au chapitre 10 de l'Évangile, vous avez le Père qui a été introduit par la Transfiguration, c'est au chapitre 9. Alors au chapitre 10, on voit le Père qui envoie, et puis au chapitre 11, un jour quelque part, Jésus priait, chapitre 11, on voit que pour recevoir l'Esprit Saint, il faut prier. C'est-à-dire, il faut se vider de soi-même pour pouvoir recevoir l'Esprit de Jésus, l'Esprit filial. Il faut vraiment se vider de soi-même. Donc, 9, 10 et 11. Jésus-Fils, le Père, l'Esprit-Saint. Donc, il nous met vraiment à l'intime de la Trinité. Et quand nous nous situons là, à l'intime de la Trinité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous sommes jugés. Le jugement est quelque chose d'extrêmement important. Non pas le jugement des hommes. Le jugement des hommes est toujours relatif. Il est relatif à ce qu'ils sont et à leur perception. Seul le jugement de Dieu, vous avez déjà vu l'expression « juge des vivants et des morts » qui va revenir, seul le jugement de Dieu est tout à fait exhaustif. Il est celui qui nous dit qui nous sommes. Et quand on nous juge, quand Dieu nous juge, pas quand les hommes nous jugent. Quand les hommes nous jugent, c'est généralement une condamnation. Parce qu'on juge à partir de soi. On peut se mettre en évidence. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Mais le jugement de Dieu est toujours un don de vie. Quand Dieu juge, et quand Dieu nous dit, bah, t'as des limites, ce n'est jamais pour nous les reprocher, c'est pour nous dire, mais laisse-les s'ouvrir, tes limites. Je suis présent en toi. Laisse-moi reculer tes limites, mais je ne peux pas le faire sans toi. Alors il faut que tu acceptes de te remettre à moi. Ça c'est le chapitre 11, le chapitre 12, pardon, qui est extrêmement important chez vous. Vous avez, si vous regardez en bref, le premier bloc, 9, 10, 11, vous avez les séparés comme ça. Vous avez Jésus comme fils de Dieu au chapitre 9. Le Père du Fils de Dieu et de chacun des fils que nous sommes, car si Jésus est fils de Dieu, nous sommes fils en Jésus. Le Père, si le Père est le Père de Jésus, il est notre Père. Vous verrez que tout cela est dit dans le texte de Luc. Nous le verrons, mais très rapidement. Chapitre 11, vous avez l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est donné à partir de la prière, c'est-à-dire de l'ouverture. De l'ouverture de notre cœur et de l'éjaculation de nous-mêmes. Et puis, au centre, vous avez les chapitres 12 et 13, qui nous parle du jugement. Nous jugeons, mais nous jugeons toujours mal. Jugement qui est un don de vie. Ça, c'est vraiment la révélation. Ici, ce chapitre-là, c'est la révélation de qui est Jésus et qui nous sommes. Quand Jésus se révèle, il nous dit aussi qui nous sommes, puisque nous sommes situés par rapport à lui. Et alors, où exactement le jugement se fait-il, se prononce-t-il au moment de la mort? C'est devant notre mort que nous devons découvrir quelle est notre option. Ce que véritablement nous sommes. Notre situation devant la mort. Devant la mort future ou devant la mort actuelle. Et puis à partir de là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Jésus nous révèle que non seulement nous sommes mortels, mais meurtriers. Et que tout ce qui nous menace, nous voulons le tuer. Et le premier qui nous menace, c'est Dieu quand il se rapproche trop. Quand il se rapproche trop, il nous fait peur. Dit autrement, il met la barre trop haut. Donc nous disons qu'on ne pouvons pas la passer. C'est ça qui nous fait découvrir notre impossibilité à passer la barre. Et à partir de là, à partir de nos instincts meurtriers, quand nous avons découvert que nous ne sommes pas meilleurs ni que les apôtres qui ont renié leur maître, trahi, ni que les juifs qui l'ont condamné, ni que les romains qui l'ont tué, que nous sommes l'un et l'autre, quand nous avons bien compris cela, nous avons découvert jusqu'où nous nous sommes exclus du royaume, alors nous pouvons découvrir jusqu'où il est venu nous chercher. Jusque dans les profondeurs de notre enfer. Et à ce moment-là, quand nous avons passé ce goulot de nous découvrir meurtriers du Fils de Dieu, en Jésus, en nos frères, en nous-mêmes, nous avons dit, nous pouvons continuer l'évangile. Mais ici, à la fin du chapitre 13, il y a une césure chez Saint-Luc extrêmement forte. Et qu'est-ce qui se passe après coup? Vous avez Jésus qui invite au repas. Inviter au repas, c'est inviter à une convivialité, comme nous disons aujourd'hui, hein, à partager le repas avec lui, à le partager. Donc ça, c'est le chapitre 14, 15, et jusqu'au 17, 16, je crois, hein, quelque chose comme ça. Donc 16 et 17 sont en tout cas deuxième, pour pouvoir dépasser ce goulot, il faut recevoir le pardon du Père. Père, pardon. Et vous avez donc les deux fils prodigues. Les deux, hein? Le juif et le païen. Que vous soyez l'un ou l'autre, vous avez besoin d'être pardonné. Ce qui est important, c'est le bon Père. Nous disons le fils prodigue, les fils prodigues que nous sommes. Et puis vous avez l'œuvre de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ici se donne justement dans une remise des dettes, dans une disponibilité de plus en plus grande. Ça, c'est à mon estime ce que Saint Luc nous fait découvrir. Jésus comme révélation. Et Jésus, enfin, le don de comme gratuité totale. Gratuité totale. Dit autrement, parole. Voilà, en très bref, nous reverrons ça tout à l'heure, si vous voulez bien.
L'expression parole de la grâce. La dénichée que à Nazareth.
Elle vient à Nazareth et puis elle revient dans les Actes des Apôtres. La parole ou la parole de la grâce. C'est le terme qui revient. Bonne nouvelle, parole de la grâce, parole, évangile. Hein, bonne nouvelle, donc évangile du royaume, ce sont différents termes. Mais c'est là qu'on l'a pris, c'est vrai. Et c'est là qu'elle vient pour la première fois. Les paroles de la grâce, c'est au pluriel. Donc, voilà, me semble-t-il, l'essentiel du cœur de l'évangile de Luc, là où il travaille seul. C'est ce qu'on appelle, dans le langage des exégètes, le Sondergut lucanien. Sondergut, c'est-à-dire le bien propre. Le bien propre de lui. Et donc c'est là qu'on peut voir quelle est sa perspective. Hein. Sinon, le reste du temps, il suit les autres. Voilà. On va arrêter ici. On reprend lundi. C'est long chapitre.
On reprend.
Moi, je parlerai plutôt du grand voyageur plutôt que du grand voyage, pour la raison que je vous l'ai dit. Au fond, c'est une grande méditation sur la personne de Jésus à partir d'événements des évangéliques que vous retrouvez certains chez Matthieu, certains quand même aussi chez Marc, comme la Transfiguration par exemple, hein, vous en retrouvez, mais mis autrement dans l'ensemble. Vous savez que chez Luc, les césures les plus habituelles, et nous avons coupé le texte, c'est en faisant attention à cette formule que Luc a, je crois que c'est 36 ou 40 fois, je ne sais plus exactement, et il arriva lorsque, cette expression, et il arriva, ou comme il arriva, ou or il arriva. Donc c'est une formule stéréotypée qui revient constamment dans l'Évangile. Et ce « il arriva » montre pour Saint-Luc, au fond, la progression dans l'histoire du dessein de Dieu. « Arriver » pour Luc, ça signifie vraiment « advenir » comme histoire de salut. Nous avons fait la contre-épreuve, et il semble que dans les Actes des Apôtres, où le terme revient beaucoup moins souvent, il semble que pour les Actes des Apôtres, ce ne soit pas aussi structurant que dans l'Évangile. Donc là, il y a une différence de facture, en tout cas, du texte. Il n'est pas exactement composé de la même manière. Et c'est à partir de ces « il arriva » ou « il arriva » que nous avons structuré et donc divisé le texte dans l'Évangile. Alors, je vais assez rapidement pour reprendre le détail de ceci. Donc, Saint-Luc veut vraiment nous introduire et introduire l'histoire du salut à l'intérieur des relations trinitaires. Il ne parle pas de trinité. C'est un terme qui viendra beaucoup après. Et c'est pourquoi nous pouvons peut-être au départ parler plutôt de communion entre Père, Fils et Esprit-Saint. Mais la personnalité de l'un et de l'autre, du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, sont déjà bien marquées dans Luc. Et ce n'est pas étonnant. Saint Paul, qui a écrit avant Luc, nous parle de façon tout à fait claire et précise des relations de la Trinité. Il suffit de prendre une des épîtres, une des plus importantes, et qui est certainement paulinienne, sans ombre à la doute, l'épître aux Romains. Si je prends par exemple le chapitre 5, surtout les chapitres 5 à 8, le chapitre 8 est tout entier consacré à l'Esprit Saint. Et si je prends le chapitre 5, le début du chapitre 5 de l'épître aux Romains, nous avons une explicitation des trois personnes de la Trinité qui est assez extraordinaire. Je vous le cite. Pour mémoire, ayant donc reçu notre justification de la foi. Autrement dit, ce n'est pas à partir de nous-mêmes que nous sommes justes, que nous pouvons avoir l'attitude qui convient à l'homme.
Quel verset ?
C'est le début, c'est le chapitre 5:1. Ayant donc reçu notre justification, nous recevons notre être, notre identité, notre ajustement à Dieu, si je veux traduire le mot justification, nous le recevons de la foi, c'est-à-dire par notre adhésion, mais une adhésion qui est en même temps une mise à la disposition de Jésus. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Être en paix signifie une relation d'intimité. Donc nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme on dit, Jésus-Christ nous met dans sa propre relation avec Dieu. Lui qui nous a donné d'avoir accès à la foi, à cette grâce gratuite, hein, qui va venir chez Paul, ou chez lui, hein, en laquelle nous sommes établis. Et nous nous glorifions, nous mettons notre gloire, nous mettons notre avantage, nous mettons notre réalité la plus profonde, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que notre identité, nous ne le trouvons que dans l'identité propre de Dieu. Dans l'espérance. Mais qui est en espérance, qui est un chemin, qui est un itinéraire. Que dis-je ? Nous nous glorifions encore des tribulations. C'est précisément dans l'épreuve que nous découvrons. L'épreuve, c'est-à-dire que nous sommes totalement démunis, c'est là que nous découvrons la gratuité. Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. C'est quand je suis éprouvé, c'est alors qu'il faut durer à travers l'épreuve. La constance produit une vertu éprouvée. La constance me façonne, me forge. La vertu éprouvée, espérance. Oui, par la foi, je reçois un itinéraire de force et de constance de la part de Dieu. Dit encore autrement, il est présent au cœur même de nos faiblesses. Il le dira ailleurs, dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Et l'espérance ne déçoit point. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il vient de parler du Père, Dieu, il vient de parler du Fils. Quand il dit Dieu, protéons en grec, chez Saint Paul, c'est toujours le Père. Et il nous parle du Saint-Esprit qui est répandu dans nos cœurs. C'est en effet alors que nous étions sans force, c'est alors au temps fixé que le Christ est mort pour les impies. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien, oui, peut-être on s'attend à mourir. Hein, on veut bien être généreux pour quelqu'un qui est bon. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. La preuve que Dieu nous aime, nous vous aime, le Père, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Alors que nous étions ennemis. Combien plus maintenant justifiés dans son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La colère étant l'expression de l'amour qui est blessé, qui est renié. Si étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu, c'est-à-dire au Père, par la mort de son Fils, combien plus une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, c'est-à-dire par la résurrection. Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui dès à présent, nous avons obtenu la réconciliation. Dit autrement, l'épître aux Romains nous pose notre existence au cœur même des relations du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc, ceci est avant Luc. Pour vous dire que ce n'est pas Luc qui a inventé, et ce n'est pas Jean, on le dit parfois, qui a inventé le langage trinitaire, Père, le Fils et l'Esprit. Et donc, ici, vous avez d'abord une présentation de Jésus. Et il nous est présenté de quelle manière ? Or, il arriva, pendant qu'il était priant, les disciples étant avec lui, il les questionna en disant qui les foules disent que je suis, et il reprend précisément l'interrogation d'Hérode, qui est venue un peu plus haut. Donc, je suis à 9-18. Ceux-ci répondirent que Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres quelqu'un les prophètes. Oui, c'est vraiment un écho au questionnement d'Hérode. Or, il leur dit, or vous, qui dites-vous que je suis ? Voilà comment il pose la question. Vous, qui dites-vous que je suis ? Et donc, il va nous faire découvrir ce que nous disons qu'il est. Pierre, ayant répondu, dit, le Christ.
Le Christ, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé. Mais quelle est l'image que nous avons de l'envoyé? Un envoyé glorieux, un envoyé triomphateur, ou bien un envoyé souffrant? Et alors Jésus va mettre l'accent sur sa souffrance. Et il va prédire par trois fois sa passion. C'est ce fils-là que nous allons découvrir. Ce fils-là, c'est-à-dire celui qui, par sa mort, va exprimer qu'il est fils. En se remettant totalement, sa vie d'homme et sa mission au Père. Père entre tes mains, je remets mon esprit. Et alors, pour montrer que ce langage est vraiment exact, vous avez la transfiguration qui intervient là. Et c'est le Père lui-même qui nomme son fils. Et dans la transfiguration, chez Saint-Luc, Moïse et Élie qui viennent le trouver, voici deux hommes parlaient ensemble avec lui, lesquels étaient Moïse et Élie, donc figurant l'un la loi, l'autre le prophète. Dit autrement, la loi et les prophètes parlent de Jésus, parlent déjà de sa mort et de sa résurrection, qui, ayant été vu en gloire, disait son exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. L'exode à Jérusalem, c'est la passion. Il va sortir du monde pour aller vers le Père. Donc oui, il nous montre d'abord le Fils qui se présente lui-même comme celui qui doit mourir. Et puis nous avons le sceau du Père, la voix du Père, qui dit « Celui-ci est mon Fils, le choisi, écoutez-le. » C'est vraiment une présentation du Fils. Chacun doit dire, doit se situer par rapport au Fils. Et puis, le Père va nous dire qui il est. Et nous allons découvrir dans le Fils comment nous sommes fils à notre tour. C'est dit aussi en parabole, puisque en descendant de la montagne, on trouve un papa avec son fils épileptique, que les apôtres n'ont pas pu guérir, et que Jésus guérit. Donc, Jésus nous montre comment il nous guérit de nos épilepsies, en quelque sorte. De nos maladies qui nous mettent en dehors de nous, qui nous aliènent. Et puis là-dessus, il reprend sa passion, l'annonce de sa passion, pour dire quel chemin il doit utiliser. Et il nous dit aussi comment nous pouvons être fils, en le suivant et en faisant tous les sacrifices pour le suivre. Ouais, c'est ce que vous avez au verset 51-62. Le verset 51 est intéressant, est important. Or, il arriva, pendant qu'il était rempli complètement les jours de son enlèvement, et vous aurez la même expression qui reviendra au moment de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Donc ça, c'est la présentation du Fils. Et qui est exprimé comme fils de l'homme. Voilà comment Jésus se désire. Fils de l'homme, ça veut dire qu'il est homme. Mais Jésus utilise ce terme fils de l'homme en référence à l'expression qui est utilisée dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13, comme un fils d'homme venant sur les nuées, c'est-à-dire celui à partir duquel tout le monde est jugé. C'est-à-dire la figure par excellence de l'homme. Jésus est déjà le fils de l'homme, mais il sera manifesté comme fils de l'homme, c'est-à-dire comme le type, l'identité de tout un chacun, de chaque homme, il le sera manifesté seulement dans sa résurrection. C'est pourquoi, quand Jésus parle du fils de l'homme, il en parle toujours en troisième personne. Il ne dit jamais « je sous-signé fils de l'homme ». Il ne dit jamais ça. Il dit, le fils de l'homme sera, le fils de l'homme fera, le fils de l'homme sera assis, etc. Donc, montrant qu'il y a encore une distance, lorsqu'il est dans sa vie terrestre, par rapport à le fils de l'homme, tel que le voyait Daniel dans sa vision, et tel qu'il va accomplir l'expression de Daniel dans sa résurrection. Voilà comment Jésus est présenté, fils. Fils de Dieu, mais exprimé dans un sens, dans une formulation très claire et très précise, fils de l'homme.
Et je suis au mot de Pilate,
Ça, c'est la manière dont saint Jean va voir les choses. Hein. Voici l'homme, eh bien, c'est un païen pour saint Jean, hein, ça veut dire, voilà, un païen qui a découvert que le prototype de l'homme, c'était Jésus persécuté, Jésus flagellé, qui couronnait des pieds. Donc, d'une royauté, mais d'une royauté vécue dans la souffrance. C'est celui-là qu'un païen donne aux juifs et aux païens qui peuvent l'écouter, donne une image à voir. Voilà l'image du Fils d'homme.
Ça, c'est en lecture chrétienne.
Ah, bien sûr, mais saint Jean était chrétien.
Il a dit voilà l'homme.
Ah, bien sûr. Mais de nouveau, nous avons la distance qu'il y a entre ce qui s'est passé historiquement. Ou Pilate a dit, voilà celui que vous avez amené,
parce que
c'est
dans
ma question. Bon, non, mais c'est dans ma question. Mais dans saint Jean qui écrit, 40 ou 50 ans après, il découvre le sens profond de la parole de Pilate. Et il la révèle. Comme quand, dans saint Matthieu, vous avez la parole de Jésus que sont censurés de nos enfants. Je veux dire, premier sens, nous portons la responsabilité. Nous portons la responsabilité de cette mort. Dans la pensée de Matthieu qui écrit cela, regardez, voilà les Juifs qui demandent que le sang de Jésus les purifie de leurs péchés et les sauve.
Caïphe.
Voilà, Caïphe aussi. La prédiction de Caïphe, c'est la même chose. Vous voyez, ça, c'est comment on écrit l'histoire quand on en a découvert le sens. Alors que le témoignage direct ne nous dit jamais le sens profond de l'événement. Quand vous avez un accident et que vous faites le constat, tel a freiné ou n'a pas freiné, etc., quand vous faites le constat, vous ne dites pas le sens de l'événement. Vous dites les choses telles qu'elles se sont passées au niveau des réflexes, au niveau du droit ou du bon droit, du mauvais droit des personnes qui ont fait l'accident. Mais le retentissement de l'accident dans les vies de ceux qui ont fait l'accident, peut-être que 40 ans après, vous le saurez seulement. Pourtant, il fait partie de l'accident. C'est peut-être ça, là. Vous ne pouvez pas le dire à ce moment-là. Il faut le temps que ça se décore.
Mais il a fallu l'accident.
Ah oui, mais l'accident, c'est passé. C'est ce que j'allais dire. Sans accident, vous n'auriez pas de décantation. Vous voyez rien. Mais le fait historique ne nous dit pas la profondeur du fait historique. Bon, nous passons. On a présenté Dieu, ou plutôt Dieu a présenté son Fils dans la Transfiguration. Il l'a présenté sur fond de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Donc dans la continuité avec Israël, la Torah et les prophètes.
Pendant que Jésus priait, il restait dans le tout.
Pendant que Jésus priait. Donc c'est à partir de la prière de Jésus qu'on découvre le Fils et qu'on va jusqu'au Père. D'ailleurs, il arriva après ces paroles, environ 8 jours, ayant pris avec lui Pierre et Jean et Jacques, il monta sur la montagne pour prier. Et il arriva, se succède 3 fois autour de la Transfiguration, ça veut dire que c'est important. Pendant que lui priait, l'aspect de sa face devint autre et son manteau blanc fulgurant. C'est dans la prière que je reconnais, dans la prière de Jésus, que je reconnais sa filiation. C'est lorsqu'il se remet au Père. Et que fait le Père? Il envoie. Et après ceci, le Seigneur désigna 70 autres et les envoya 2 à 2 devant sa face. Et il disait, la moisson est nombreuse et les ouvriers peu nombreux, appelez donc le Seigneur de la moisson, de façon qu'il expédie les ouvriers vers sa moisson. Donc celui qui envoie, c'est le Seigneur de la moisson. Donc, au-delà de Jésus, c'est le Père qui envoie. Comme le Père m'a envoyé, dira saint Jean, moi aussi je vous envoie. C'est le même envoi qui continue.
On est au chapitre 10.
C'est le chapitre 10. Et quand les disciples qui ont été envoyés reviennent, et tout fiers, ils retournèrent avec joie en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. On fait une action formidable. Jésus les calme un petit peu, il dit non, c'est vrai. J'observais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Il reprend un mot d'Isaïe. Voici, je vous ai donné autorité pour fouler aux pieds serpents et scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du tort, cependant. Ce n'est pas le vrai sujet de votre foi. Laissez tomber cela. Cependant, réjouissez-vous que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Le nom inscrit dans les cieux. Traduit dans un autre langage, que vous êtes présent au cœur même de cette relation du Père et du Fils. Et à cette heure-là, il tressaillit d'allégresse dans l'Esprit Saint. Il nous fait part de son union avec le Père. Il nous fait entrer dans sa prière. Je te confesse, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu dissimulas cela à de sages et compréhensifs, et que tu le révélas à des marmots. Oui, Père, ainsi se manifesta, ainsi arriva littéralement la bienveillance devant toi. C'est ainsi que tu nous aimes. Jésus nous fait entrer dans sa propre prière. C'est ça notre joie. Nos noms sont inscrits dans les cieux. Toujours dans la vision de Luc. Hein. Puis il nous fait découvrir que cet envoi est une attention au prochain. Et ça nous est raconté à travers la démarche d'un légiste, d'un homme de loi, c'est-à-dire d'un bon observant, un pharisien, qui vient mettant Jésus à l'épreuve, et il dit, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer comme ça, hein, dans cette intimité, avoir la vie éternelle, la vie de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Alors Jésus le renvoie à sa loi, hein, puisque c'est un spécialiste. Dans la loi, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'on pense?